On lit pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi
les as de l'info. Pour ou contre laisser gagner les enfants. Un texte de Caroline Bouffard paru le 3 mars 2025 dans les as de l'info. Les jeux de société. Il y en a pour tous les goûts et c'est tellement une belle façon de passer du temps en famille. Bon, c'est certain que quand on perd, c'est un peu moins drôle, mais c'est la vie. Mais savais-tu que certains adultes laissent gagner les enfants? Est-ce que c'est une bonne idée? Il y a sûrement des pour et des contre. Regardons ça ensemble. Les pour. C'est bon pour l'estime de soi des enfants. Quand on gagne, on se sent bon. On est fier. C'est vraiment une sensation agréable. Ça explique pourquoi certains adultes laissent gagner les enfants. C'est même recommandé par des psychologues de le faire de temps en temps. L'enfant aura le goût de jouer à nouveau. Les adultes ont une longueur d'avance. Dans des jeux qui demandent de la planification et de la stratégie, comme les échecs par exemple, les adultes ont souvent un avantage, leur âge. Donner des indices, permettre de reprendre un coup et laisser gagner les enfants, c'est une bonne façon de leur apprendre à jouer. Ça rend les parties plus équilibrées et plus agréables. Ça permet d'apprendre à gagner. Sauter de joie quand on gagne, c'est bien. Se vanter et se moquer, ça ne l'est pas. C'est important de féliciter son adversaire, de souligner ses bons coups. En laissant les enfants gagner, les adultes apprennent aux enfants à bien se comporter dans une situation de compétition. Être un bon gagnant, ça s'apprend. Les contres. C'est tricher. Pour laisser gagner les enfants, il faut tricher. C'est aussi mentir un peu, et ça, c'est un gros non. Jouer, c'est apprendre à respecter les règles, à attendre son tour, à accepter sa chance ou sa malchance. Laisser gagner, c'est un très mauvais exemple à donner. Il faut que les enfants vivent des frustrations. Laisser gagner les enfants parce qu'on ne veut pas devoir gérer une crise ou une baboune, ce n'est pas une bonne idée. On ne gagne pas toujours dans la vie. On doit apprendre à vivre avec la déception, la frustration. Ne jamais perdre, ça rend très mauvais perdant. Il faut mettre l'accent sur le plaisir de jouer, point. Perdre permet de s'améliorer. Dans des jeux de stratégie, voir les autres gagner, ça permet d'apprendre. On peut analyser la partie, voir ce qu'on aurait pu faire de mieux. C'est un moyen de s'améliorer. Comme le disait Nelson Mandela, un grand homme, « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Toi, es-tu pour ou contre laisser gagner les enfants? Que se passe-t-il au Congo? Un texte de Camille Lopez, paru le 3 mars 2025 dans les As de l'Info. La République démocratique du Congo, c'est un grand pays situé en Afrique. En ce moment même, il s'y déroule l'une des guerres les plus meurtrières du dernier siècle. Depuis 1996, on estime que 6 millions de Congolais sont morts dans ce conflit. Et près de 7 millions ont dû fuir leur maison. Pourtant, on en entend peu parler. Voici ce qui se passe. Des minéraux que tout le monde veut avoir. Dans le sol de la République démocratique du Congo, il y a énormément de minéraux rares, comme ceux qu'on utilise pour fabriquer des appareils électroniques, téléphones, tablettes, ordinateurs. Ce sont des ressources qui valent cher. Ceux qui les exploitent font donc beaucoup d'argent. C'est pour avoir le contrôle de ces minéraux que des groupes ont commis beaucoup de violence. Qui s'affronte? Dans ce conflit, deux camps s'affrontent. D'un côté, le groupe armé M23, qualifié de mouvement terroriste par plusieurs experts. Selon l'Organisation des Nations Unies, le M23 est aidé par un pays voisin du Congo, le Rwanda. Son but, c'est, entre autres, de prendre le contrôle des mines du Congo. De l'autre, il y a l'armée du Congo, qui est aidée de quelques groupes armés congolais. Son but est de défendre le pays des assauts du M23. De la violence extrême. Le conflit se déroule surtout autour de la ville de Goma, qui est située à proximité de beaucoup de mines où l'on extrait les minéraux tant convoités. Cette guerre, c'est la continuité d'un grand conflit qui a éclaté en 1996. En tout, on estime que 6 millions de personnes ont été tuées. Il y a eu des moments plus calmes, mais en octobre 2024, ça a repris. Pour prendre le contrôle des régions riches en minéraux, le M23 a commis des crimes contre l'humanité, comme des meurtres, de la torture et des violences sexuelles. Dans les derniers mois, des milliers d'adultes et d'enfants ont été tués et blessés. La population a très peur. 7 millions de personnes ont quitté leur maison depuis 1996. Juste depuis janvier 2025. 400 000 personnes ont fui. Certains vivent maintenant dans des camps de réfugiés où il n'y a pas beaucoup de nourriture et où l'accès à des médecins et à l'éducation est limité. De l'aide et des dénonciations. Devant toute cette violence, des organismes tentent d'aider comme ils peuvent. Par exemple, l'Organisation des Nations Unies est au Congo pour fournir de l'aide humanitaire. Certains pays, comme la France et les États-Unis, ont récemment dénoncé le rôle du Rwanda dans ce conflit. Le Canada, lui, a exigé que la violence diminue et que les droits humains soient respectés. Et toi, avais-tu entendu parler de ce terrible conflit qui dure depuis près de 30 ans? Vrai ou faux? Les méga-tempêtes de neige prouvent qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Un texte d'Ophélie Delaunay, paru le 27 février 2025 dans les As de l'Info. Cet hiver, au Québec, on a eu droit à des tempêtes de neige spectaculaires et des journées où on se serait cru dans un congélateur géant. Certaines personnes pourraient dire que c'est la preuve qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Mais c'est faux. C'est plutôt la preuve qu'il faut connaître la différence entre météo et climat. Attache ta tuque, je t'explique. Météo et climat, ce n'est pas la même chose. La météo, c'est ce qui se passe aujourd'hui et dans les prochains jours, tandis que le climat, c'est une tendance observée sur plusieurs années. Alors oui, il y a des tempêtes de neige et des périodes très froides cet hiver. C'est la météo. Mais ça ne veut pas dire que le climat au Québec ne se réchauffe pas. En réalité, les scientifiques ont observé un réchauffement hivernal d'environ 3 degrés Celsius en moyenne depuis une centaine d'années. Et ce n'est pas fini. D'ici 2100, on prévoit une hausse d'entre 3 degrés Celsius et 6 degrés Celsius en hiver, selon les régions du Québec. Ce réchauffement fait en sorte que nos hivers sont de plus en plus courts et de moins en moins froids. Mais les chutes de neige ne devraient pas disparaître de si tôt. Plus de chaleur, plus de neige. Un climat plus chaud peut aussi amener plus de neige. Comment ça se fait? L'air chaud contient plus d'humidité. Qui dit plus d'humidité dit plus de précipitations, pluie, neige. Et si la température est assez froide, entre 0 degré Celsius et moins 10 degrés Celsius, ces précipitations tombent en neige. Ça fera quoi sur nos hivers québécois? Dans les prochaines années, Les tempêtes de neige seront probablement moins fréquentes, mais parfois plus intenses, et il pleuvra plus souvent. Et quand il neige en Floride, en janvier dernier, il a fait très froid au Québec, mais aussi en Floride et au Texas. Ces régions chaudes du sud des États-Unis se sont même retrouvées sous la neige. C'est un événement rare. Le coupable? Le vortex polaire, un immense tourbillon d'air glacial qui tourne normalement autour du pôle Nord. La plupart du temps, il reste bien en place au sommet du globe, mais parfois, il devient instable et laisse s'échapper de l'air glacial loin vers le sud. Et le réchauffement climatique déstabilise encore plus le vortex. Il risque donc d'y avoir encore plus souvent de la neige à des endroits inusités. Chaud, froid, chaud, froid. Pas si simple de démêler tout ça. En résumé, il faut distinguer météo et climat. Et un gros blizzard ou une tempête de neige ne veut pas dire que la Terre ne se réchauffe pas. Que faire avec toute cette neige? Au Québec, on ramasse des montagnes de neige chaque hiver. Elle est empilée dans d'énormes dépôts ou versée dans les égouts. Pourrait-on la réutiliser à la place? Dans certains pays, la neige est conservée pour rafraîchir des bâtiments ou des serres agricoles en été. Une idée géniale pour économiser de l'énergie et rendre nos hivers encore plus utiles. Toi, est-ce que tu aimes l'hiver? Quelle est ta saison préférée et pourquoi? Un étudiant prouve qu'il y a eu des mégalodons au Canada. Un texte de Caroline Bouffard, paru le 26 février 2025 dans les As de l'Info. Louis-Philippe Bateman, un étudiant québécois de 23 ans, vient de prouver que le mégalodon, un requin géant disparu, a nagé dans les eaux canadiennes. Entrevue avec un grand passionné de tout ce qui est gros, effrayant et préhistorique. Louis-Philippe, rappelle-moi, qu'est-ce que c'est un mégalodon? C'est un immense requin préhistorique disparu depuis au moins 500 000 ans. Il mesurait 20 mètres de long. C'est deux autobus scolaires. Qu'est-ce que tu as découvert sur eux? J'étudie en paléontologie, la science des êtres vivants du passé par l'étude de fossiles, et je m'intéresse aux dents fossilisées de mégalodons depuis plusieurs années. Beaucoup ont été découvertes dans l'est du Canada, mais elles n'avaient pas été vraiment étudiées. J'ai trouvé de vieux magazines de pêcheurs de palourdes des années 1960 dans lesquels on parlait de ces dents géantes. J'ai demandé la permission d'étudier des dents conservées dans les musées. Ça m'a permis de confirmer qu'il y avait des mégalodons dans l'océan Atlantique près du Canada. Je suis le premier à le faire. Est-ce que le mégalodon était un dinosaure? Non. Les derniers dinosaures sont disparus il y a 66 millions d'années. Les mégalodons sont apparus il y a environ 20 millions d'années. Dans le temps, ils sont plus proches de nous que des dinosaures. On peut dire que tu es un mordu de dinosaures? Oui. Depuis que j'ai 3 ans. Une éducatrice en garderie nous en avait parlé et j'étais revenu à la maison emballé. C'est aussi vers cet âge que j'ai reçu une mini-encyclopédie sur les dinosaures, que j'ai toujours. Tu as toujours su que tu voulais en faire ton métier? Je pense qu'au secondaire, j'ai essayé de me convaincre que ce n'était pas exactement ce que je voulais faire. C'était un peu original et à cet âge-là, on essaie de ne pas trop dévier de la norme. Mais oui, ça a toujours été assez clair pour moi que je voulais être paléontologue. Je fais ma maîtrise en paléontologie à l'Université McGill à Montréal. Tes études actuelles portent sur quoi? J'étudie les fossiles pour voir si les extinctions anciennes peuvent nous aider à améliorer la protection des écosystèmes maintenant. Je crois qu'on peut se servir du passé pour éviter de répéter des erreurs. As-tu déjà trouvé des fossiles? Oui. Depuis 3 ans, je passe mes étés au parc provincial Dinosaur, en Alberta, au Canada. C'est le meilleur endroit au monde pour trouver des dinosaures. En fait, c'est plus facile de marcher sur un os que de ne pas le faire. On en trouve tous les jours. Que rêves-tu de découvrir? Un dinosaure au Québec. Malheureusement, il y a 10 000 ans, les glaciers ont complètement défoncé la couche de roche sédimentaire qui contenait probablement des ossements. Mais ça pourrait être possible près de Shefferville, sur la côte nord. En fait, je rêve seulement de continuer à faire ce que je fais actuellement. Ce serait la plus belle vie possible pour moi. Si tu pouvais voyager dans le temps, quel dinosaure aimerais-tu observer? Pourquoi? Microplastiques. Ces minuscules morceaux de plastique sont des polluants très abondants. Un texte paru dans l'édition janvier-février du magazine Les Débrouillards. Aujourd'hui, on trouve des microplastiques dans l'eau, dans l'air, dans le sol et même dans notre corps et dans celui des animaux. Difficile d'y échapper. Chaque année, on produit 430 millions de tonnes de plastique dans le monde. Malheureusement, tout ce plastique n'est pas recyclé. Plusieurs objets en plastique échappent aux collectes de déchets et se retrouvent dans l'environnement. Il leur faut alors entre 500 et 1000 ans pour se dégrader complètement. Le soleil, les vagues, l'usure et même les animaux fractionnent ce plastique en minuscules morceaux, des microplastiques. Certains sont aussi petits que des grains de riz, 5 mm, ou plus petits encore, en dessous de 0,001 mm. On parle de nanoplastiques. D'autres plastiques arrivent dans la nature déjà tout petits. Ils proviennent surtout de nos vêtements et des pneus. Les tissus synthétiques, comme le polyester, le nylon ou l'acrylique, sont fabriqués à partir de plastique. Lorsqu'on lave nos vêtements, de petites fibres s'en échappent. Les machines à laver rejettent ces microplastiques et malheureusement, les usines de traitement des eaux ne réussissent pas à tout filtrer. Sur la route, les pneus s'usent et envoient des particules dans l'air et sur la chaussée. Sont-ils dangereux? Les scientifiques comprennent encore très mal les effets de ces particules sur la santé et l'environnement. Il y a des risques, oui, mais lesquels? On commence à étudier ce sujet. Il faut continuer. Peut-on nettoyer l'environnement? Pour le moment, il n'existe pas de manière efficace de supprimer les microplastiques. Les scientifiques cherchent des solutions. On pourrait, par exemple, installer des filtres à microplastiques sur nos machines à laver. Des scientifiques québécois, entre autres, y travaillent. Des lois peuvent aussi être votées. Par exemple, certains pays ont interdit les produits cosmétiques contenant des microbilles de plastique. Ces solutions ne régleront pas tout. Il faudra quand même produire beaucoup moins de déchets plastiques. Que peut-on faire? Premièrement, acheter moins d'objets en plastique, surtout ceux qui ne servent pas longtemps. Les 2/3 des déchets plastiques sont de ce type: emballage, vaisselle jetable, objets à bas prix. Deuxièmement, s'assurer de recycler le plastique recyclable. Et bien sûr, ne jamais jeter de plastique dans l'environnement. Merci. Pour ou contre voyager aux États-Unis? Un texte de Caroline Bouffard, paru le 24 février 2025 dans les As de l'Info. une école secondaire de Granby a annulé le voyage de fin d'année à New York des élèves de 4e secondaire. Pourquoi? L'école explique que c'est en raison des tensions entre le Canada et les États-Unis depuis l'élection de Donald Trump. D'autres écoles ont aussi annulé leur voyage aux États-Unis ou pensent le faire. Des familles changent également leurs plans pour les vacances d'été. C'est exagéré ou c'est une bonne idée? Pour t'aider à y réfléchir, regardons ensemble les pour et les contre voyager aux États-Unis. Les pour. Le peuple américain ne nous a rien fait. C'est Donald Trump le problème, pas les Américains qu'on risque de croiser dans les boutiques, etc. Il faut aussi se rappeler qu'environ la moitié de la population a voté contre Donald Trump. Et il y a des destinations qui sont majoritairement démocrates, le parti politique opposé au président, comme la Californie ou le Vermont. Un pays qui a tant à offrir. Les États-Unis sont immenses. Grandes villes, musées, parcs nationaux et Walt Disney World. Qu'on soit amateur de montagne, de plage, de gratte-ciel ou de petits villages, il y en a pour tous les goûts. C'est une destination de choix qui a tellement à offrir. Pourquoi renoncer à cette richesse? C'est une destination facile. C'est le pays voisin d'une autre, c'est juste à côté. Les Canadiens voyagent aux États-Unis depuis des décennies. Des milliers de grands-parents fuient le froid et passent presque la moitié de l'année en Floride. Ça fait partie de nos traditions. C'est dommage de se priver de ces voyages à cause de la politique. Les contres. Une façon de protester contre Trump. Depuis qu'il est au pouvoir, Donald Trump a pris des décisions controversées qui sont loin des valeurs de notre pays. Il a retiré des droits aux communautés LGBTQ+, aux femmes. Il est contre les programmes qui favorisent la diversité. En plus, il menace d'annexer le Canada et de nous imposer des tarifs. Refuser de mettre les pieds dans son pays, c'est une façon de lui montrer notre désaccord. Il faut être solidaire et encourager notre tourisme local. Les décisions du président américain pourraient nuire à l'économie du Canada. Une façon d'aider? Dépenser nos sous ici. Ça veut aussi dire de rester au pays pendant les vacances et encourager le tourisme local. On a plein de beaux endroits à découvrir ici aussi. Visez là où ça fait mal, le portefeuille. En 2024, les touristes canadiens qui ont visité les États-Unis ont dépensé 20,5 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent. Tu imagines l'impact que ça peut avoir si on arrêtait de visiter nos voisins du Sud? Toi, es-tu pour ou contre voyager aux États-Unis? Il est une fois l'étudiant qui a plané jusqu'à son examen. Un texte de Frédéric Lavoie, paru le 28 février 2025 dans les As de l'Info. Il est une fois, à notre époque, un étudiant qui a failli être en retard à un examen très important. L'histoire se déroule dans une région montagneuse de l'Inde. Samarth est étudiant en commerce dans un collège. Il a 19 ans. Pour financer ses études et aider sa famille, il travaille aussi dans un petit kiosque de jus de canne à sucre dans une ville touristique. C'est dimanche. Il est 13h30. Samarth est en train d'insérer des tiges de canne dans l'extracteur à jus. Son téléphone sonne. C'est un camarade de classe. Il lui demande où il est. Il lui rappelle que leur examen commence dans 30 minutes. Un examen? Quel examen? Trop occupé par son travail, Samarth n'avait pas réalisé que la date de l'examen avait été déplacée au dimanche. Le kiosque à jus de Samarth se trouve tout en haut d'une colline. Le centre d'examen est à quelques kilomètres tout en bas. Pour s'y rendre, il lui faudrait emprunter la route étroite qui tourne autour de la colline comme un serpent, mais, comme c'est souvent le cas, il y a un gros bouchon de circulation. Des travaux routiers ralentissent encore davantage les voitures. Samarth comprend que, même en enfourchant une moto et en zigzaguant entre les autos, il n'a aucune chance d'arriver à temps. Que faire? Juste à côté de son kiosque se trouve un site de décollage de parapente, ce type de parachute qu'il est possible de diriger dans les airs. Chaque jour, en préparant du jus de canne, Samarth voit des touristes s'élancer dans le vide et planer au-dessus des montagnes pour le simple plaisir. Si au moins lui aussi pouvait s'envoler, il aurait une chance d'arriver à temps à son examen. C'est justement ce que lui propose Govind, l'un des moniteurs de parapente, en entendant parler de son malheur. Mais Samarth hésite. Il n'a jamais fait de parapente de sa vie, et en plus, c'est une activité beaucoup trop chère pour lui. Govind insiste. Il lui offre le vol gratuitement et il sera accompagné d'un moniteur expérimenté. Il n'y a rien à craindre. Samarth finit par accepter. A-t-il vraiment d'autre choix? Son avenir en dépend. Samarth enfile un casque protecteur. Govind et son équipe l'attachent en vitesse au parapente et au moniteur avec des harnais et hop! Il est 13h45 quand Samarth et le moniteur s'envolent de la falaise. À peine 5 minutes plus tard, ils atterrissent près du centre d'examen. Mission réussie. Enfin, presque. Après toutes ces émotions fortes, Samarth doit maintenant se concentrer sur son examen. Et toi, aurais-tu osé sauter de cette falaise en parapente pour ne pas rater ton examen? Cette histoire est bien vraie. Samarth Mahangad étudie le commerce dans un petit collège des Ghâts occidentaux, une longue et majestueuse chaîne de montagnes en Inde. Le 15 décembre dernier, grâce à l'aide et la générosité de Govind Yemal, moniteur de parapente, il a pu se rendre à temps à son examen. La vidéo de cette très courte épopée est devenue virale sur les réseaux sociaux en Inde, où les examens scolaires sont une grande source de stress pour les étudiants, comme partout dans le monde. C'était Gilbert. À une prochaine lecture.
C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans 2 semaines. Merci à toute l'équipe.